France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chez les 18-25 ans, 3 électeurs sur 4 ne votent pas aux élections européennes.
Je refuse de croire que l'Europe n'intéresse pas les jeunes. C'est juste qu'il faut changer la manière dont on en parle.
La journaliste Cécile de Kervas-Doué nous propose de porter la voix des jeunes électeurs.
La rédaction de France Culture part à la rencontre de ces jeunes européens. Leurs idées reçues sur l'Europe, leurs thèmes favoris, leurs habitudes numériques. Les journalistes se glissent dans la peau d'un jeune de 20 ans sur Instagram et vous font découvrir l'Europe à travers leurs yeux, leurs mots et leurs voix. 4 semaines thématiques, emploi, frontières, égalité, environnement.
Une série multimédia interactive sur France Culture, notre compte Instagram et franceculture.fr.
France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Des centaines de milliers de personnes, étudiants et enseignants, sont descendues hier soir dans les rues brésiliennes. Elles ont voulu défendre les universités du pays menacées par d'importantes coupes budgétaires. Il s'agit du premier mouvement national de contestation contre le président d'extrême droite au Brésil, Jair Bolsonaro, et ce depuis son arrivée au pouvoir en janvier dernier. Autre alerte au Brésil encore, cette fois contre la déforestation grandissante. Le célèbre chef indien Raoni parcourt actuellement l'Europe pour sensibiliser sur ses pratiques anti-environnementales. Il sera reçu ce jeudi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Raoni doit également rencontrer le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Emmanuel Macron et Angela Merkel brisent la glace à 10 jours des élections européennes. Dans un entretien à la presse européenne, la chancelière allemande admet avoir des différends de mentalité, des discontinuités avec le chef de l'État français. Interrogé lors d'une conférence de presse à Paris hier, Emmanuel Macron a répondu qu'il assumait une confrontation féconde avec son homologue allemande, et ce dans le but de bâtir un compromis. Eux aussi affichent leurs divergences, notamment sur le plan européen, et elles sont nombreuses. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, et Nathalie Loiseau, qui mène la liste de la majorité aux européennes. Tous deux s'affrontaient hier sur le plateau de BFM Télé. Ils ont notamment débattu de l'immigration en Europe. Le premier voulant rétablir les frontières nationales, la seconde prônant une meilleure lutte contre l'immigration illégale. Au chapitre économique maintenant, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Dans le nord à Saint-Saulve, l'acierie d'Ascoval est bel et bien reprise par le sidérurgiste britannique British Steel. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire le confirmait hier, les 268 salariés restent donc sur leur garde toutefois. Quand un peu plus au sud, dans la Somme et le Calvados, les deux sucreries de l'Armand Sud Zucker vont fermer. Le propriétaire refuse que les sites soient repris par les salariés en coopérative. Et puis Patrick Balkany accuse le fisc de surévaluer son patrimoine. Au troisième jour de son procès, le maire de Levallois-Perret a invoqué hier son héritage familial pour justifier son train de vie fastueux. Patrick Balkany et son épouse Isabelle Balkany sont soupçonnés d'avoir dissimulé un patrimoine d'au moins 13 millions d'euros à l'administration fiscale française.
C'est comme Chaplin, eux comme épouvante. Du cinéma, encore et toujours du cinéma. Chaque samedi à 14h, plan large, par Antoine Guillot.
Ça tourne. Cannes, c'est l'horreur. Entendons-nous bien, on y voit toujours les meilleurs films du moment, mais côté mort-vivant, étripages en tout genre et serial killer masqué avec un grand couteau, on est servi. John Carpenter, honoré par ses pairs cinéastes Jim Jarmusch et Bertrand Bonello, accompagné de leurs zombies, c'est dans Plan Large, samedi à 14h, en direct du Festival de Cannes.
Plan Large, tous les samedis à 14h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture, Toufik Hakem nous a rejoint pour une demi-heure de culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Toute cette semaine, à l'occasion du Festival de Cannes, on parle beaucoup de cinéma, de metteurs en scène, de comédiens, de gens qui écrivent sur le cinéma. Mais il ne faut pas oublier les musiciens, les compositeurs de musique de films. Aujourd'hui, on rend hommage à Michel Legrand qui nous a quittés cette année et nous recevons un de ses amis, le musicien, l'accordéoniste Richard Galliano est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
C'est un extrait de votre dernier album, Richard Galliano, de Tokyo Concert. C'est un concert que vous avez enregistré à Tokyo.
À Tokyo, il y a un an. Et cette introduction est complètement improvisée. Alors, improvisée, c'est quoi? C'est de la composition spontanée. Donc, tout ce passage-là est... d'introduction et jouer spontanément. Je m'étais dit, d'ailleurs, avant de rentrer sur scène, j'ai l'habitude en solo, comme je suis complètement libre, de pas faire de liste de morceaux pensés à l'avance et se jeter à l'eau comme ça, comme la chanson de Nougaro et de Michel Legrand justement.
Ouais.
Splash. On se jette à l'eau et puis on essaye de nager. Et après, ouais. on atterrit sur quelque chose. Là, j'ai atterri sur une mélodie que j'avais fait avec Nougaro, Allée des Brouillards, par exemple.
Demain, vous serez en concert dans le cadre du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Vous serez à l'église Saint-Germain, d'ailleurs, pour un récital d'accordéon. Est-ce que vous allez jouer tous les titres de cet album? Parce que dans cet album de Tokyo Concert, il y a cet hommage que vous rendez à Michel Legrand.
Oui, il y aura un hommage, bien sûr, à Michel Legrand. D'ailleurs, j'avais assisté à un concert de Michel Legrand en duo avec son épouse, Catherine Michel, harpiste, il y a 2-3 ans de ça, hein, ou peut-être un peu plus. D'ailleurs, on s'était perdu de vue et on s'est retrouvé les derniers mois avec Michel. C'est pour ça que dans ce concert de Tokyo, j'ai pensé à lui rendre un hommage de son vivant, et parce que c'est bien de dire aux gens qu'on les aime lorsqu'ils sont vivants. Et on s'est vraiment rapprochés... Encore au mois d'octobre, j'étais avec mon épouse. Il m'avait invité pour qu'on parle justement de cette soirée du Rex. Mmh. Et il voulait nous inviter avec son big band. Et ce jour-là, d'ailleurs, il m'a offert un bandoneon, magnifique bandoneon.
Et finalement, voilà, il n'était pas là, mais les concerts ont eu lieu grâce à vous.
Oui, oui. Richard Galliano. Voilà, donc la suite, on est resté vraiment très en contact. C'est sûr que je m'étais aperçu qu'il était... Il avait toujours une force très très impressionnante, toujours une envie de vivre qui transpirait de partout, vraiment tout le meilleur qui sortait de lui comme ça dans les paroles, quand il parlait à travers les sourires, ses yeux d'enfant toujours. Mais bon, je me disais, je le trouvais très fatigué, quoi. Mais
après une longue et fructueuse carrière.
Hein. Eh oui. Et juste avant de décéder, la veille, il a dit à son épouse, Macha Merrill, je veux que ça soit Richard qui soit le directeur artistique de cette soirée. Et c'est sûr que ça m'a touché profondément et j'ai senti c'est un héritage. J'ai d'ailleurs eu des signes après les concerts qui restent intimes, mais bon, j'ai compris à travers ça qu'il me disait, merci Richard, tu as fait un bon travail. Alors, vous avez fait un bon travail parce que j'étais pas tout seul dans cette soirée.
Alors, Richard Galliano, parlez-nous de votre Michel Legrand. Est-ce que c'est le Michel Legrand tel qu'on le connaît nous-mêmes, c'est-à-dire le compositeur de plus de 200 musiques de films, dont bien sûr les très classiques, les devenus très classiques depuis Demoiselle de Rochefort et les parapluies de Cherbourg, ou est-ce que c'est celui qui était là au début avec des chanteurs, avec le music-hall français?
Vous savez, un musicien, un artiste, comme ça, arrivé à un certain âge, on est en résultat de toute notre vie. Alors c'est sûr que j'ai été sensible, d'ailleurs c'est resté intemporel, son premier disque qu'il a fait pour les États-Unis, qui a été sur les airs de Paris, en grand orchestre. Après on lui a proposé, parce qu'il a touché très peu de royalties sur ce disque-là, on lui a proposé le disque de ses rêves. Il faut savoir qu'il avait 24 ans à l'époque. Et lui, il s'est pas dégonflé du tout. Il a dit, oui, je veux le disque de mes rêves. Je veux Miles Davis, John Coltrane, je veux Ben Webster, Bill Evans, Milt Jackson. Mm-hmm. Vous voyez, il faut avoir quand même beaucoup de, à la fois, il était très solide musicalement avec toutes les études qu'il avait vraiment poussées jusqu'au bout avec Nadia Boulanger, mais aussi au conservatoire avec Noël Gallon, mais, c'est sûr qu'il a échappé, on pourrait dire, aux griffes un peu de Nadia Boulanger, parce que lorsqu'il a fini ses études, au lieu d'aller dans la musique, entre guillemets, bon, quelque chose qui me fait toujours réagir, comment dire, d'une manière un peu violente, la musique sérieuse, il a accompagné Maurice Chevalier et il est parti aux États-Unis. Ça a toujours été un musicien libre et il faut savoir que maintenant, C'est sûr que les Parapluies de Cherbourg, Demoiselle de Rochefort, c'est des chefs-d'œuvre incontournables. Mais il faut savoir qu'à l'époque, personne n'en voulait. Et ça a été sa carte de visite lorsqu'il est arrivé aux États-Unis. Les musiciens comme Mancini, et puis aussi les artistes, chanteurs connaissaient Michel Legrand à travers ses compositions, à travers surtout les choses qui avaient été refoulées ici en France.
D'ailleurs, même Ray Charles ne pouvait pas dire non à Michel Legrand quand il a décidé de réaliser.
Ah oui, mais c'était des copains.
Son film. Comment vous êtes connu, Richard Galliano, avec Michel Legrand?
Ah, Michel Legrand, quelquefois, mais là, c'était plus incognito. J'avais participé à mon arrivée à Paris à ses big bands en tant que tromboniste. Et après, on s'est surtout croisés lorsque j'ai commencé à travailler avec Nougaro. Donc les premières chansons que j'ai faites avec Nougaro, certaines séances aussi où Claude avait demandé des chansons à Michel. Après on s'est jamais, on se voyait pas souvent, mais on s'est jamais perdu de vue. On s'est revu. Je me souviens une fois à New York aussi pour une grande réunion de musiciens français à New York, au Japon aussi, au Japon. Et puis après il y a eu cette période où on s'est perdu de vue. Et on s'est revu l'année dernière, en fait, il y a un an et demi, pour la commémoration de l'attentat de Nice. Et dans la soirée, on ne s'était pas croisés, mais le matin, on est tombé nez à nez. Et lui repartait sur Paris, et là, il m'a appelé, et puis il m'a rappelé, il m'a dit simplement, tu sais que je t'aime beaucoup, que je t'adore. Et c'était un fan par rapport à... On était fans tous les deux, quoi, disons. Voilà. Moi, j'adore sa musique. Mais je crois qu'on fait partie de la même musique. On vient de la chanson, avant tout. Et qu'est-ce que c'est la chanson? C'est la lisibilité dans la musique. C'est non simplement la mélodie. On dit la mélodie, c'est vaste. C'est prendre une cellule mélodique et la faire vivre. Si vous regardez de près toutes les chansons de Michel Legrand, c'est pas une recette. C'est vraiment une manière, un savoir-faire. Si on commence par une micro, et ça évolue comme ça, tous les morceaux, je chante très mal, mais enfin, je m'applique pas aussi. Mais vous voyez qu'il y a une cellule qui est d'abord répétée deux fois, et puis après développée, et qui passe par toutes les, parce que c'était un très grand harmoniste, pas simplement mélodiste, parce que c'est réducteur de dire il est mélodiste. Tout le monde peut être mélodiste. Vous voyez, le peintre à la maison, il vous siffle quelque chose et dit « Ah tiens, c'est original ce qu'il siffle là ». Mais après, il faut savoir, on est compositeur si cette mélodie simple, on sait l'orchestrer, on sait l'harmoniser, on sait la transposer. Si vous prenez toutes les chansons de Michel Legrand, elles ne sont jamais dans la même tonalité. Avec Barbra Streisand, il va la faire en fa mineur. Pour Tony Bennett, ça va être en ré mineur. Pour Nougaro, ça va être en mi. Donc, c'est vraiment... Aussi, cette formation, comme les organistes classiques savent comme ça transposer les morceaux, les développer, ou alors les jazzmen, tous les grands jazzmen jouent tous les standards de jazz dans toutes les tonalités. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est à l'aise dans toutes les tonalités et qu'on peut...
Alors, pour ceux qui ont raté ce grand concert au Grand Rex, en hommage à Michel Legrand, la bonne surprise, c'est que les morceaux que vous avez composés en hommage à Michel Legrand, à partir des musiques de Michel Legrand, on peut les trouver dans votre dernier disque, Richard Galliano, de Tokyo Concert.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec donc cet hommage à Michel Legrand de Richard Galliano. Là, vous avez pris des musiques de Michel Legrand que vous avez.
Oui. Les Moulins de mon cœur, d'autres morceaux aussi. Et Michel aimait beaucoup, non pas cet enregistrement-là, parce que j'ai pas eu l'occasion de lui faire écouter, mais je l'ai enregistré dans un autre disque aussi qui est sorti avec un trio avec Paolo Fresu et Jan Lundgren, un groupe que nous avons, un trio, Mare Nostrum. Et je lui ai envoyé l'enregistrement et il aimait beaucoup cette version a cappella, très simple. Il m'a laissé un message que j'ai gardé dans mon téléphone d'ailleurs. Vraiment, il avait été très touché par cette... Puis c'était un amoureux de l'accordéon aussi, dans tous ses enregistrements. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les valses musettes, il en a composé aussi d'ailleurs.
Et il a composé aussi des musiques de films. Est-ce que vous, Richard Galliano, c'est un exercice que vous aimez composer pour des images, c'est-à-dire que...
Oui, en fait, la musique de film, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont, compositeurs de musique de film, c'est leur travail. Donc, que le scénario soit intéressant, l'histoire, qu'il y ait une histoire ou qu'il n'y en ait pas, ils vont trouver de faire une musique un peu d'accompagnement. La plupart du temps, l'équilibre des musiques de Michel Legrand, c'est comme dans la chanson. Vous voyez, là, vous avez entendu une chanson, il manque le texte, il manque 50% de la chanson. Dans un film, c'est pareil. Ma référence des musiques de film, c'est bien sûr Michel Legrand, Nino Rota, Morricone. Si vous enlevez la musique du film, vous enlevez 50% de l'émotion, de l'histoire même. Souvent, Michel Legrand a guidé les réalisateurs, les scénaristes qui ont monté le rythme du film sur sa musique. Alors pour le moment, j'ai pas eu vraiment l'occasion, ou toujours des choses qui se sont avortées un peu dans les moments. Il faut savoir que c'est un univers assez difficile, la musique de film.
Pourquoi c'est difficile?
C'est difficile parce que il faut rencontrer ce sont des rencontres, en fait. Oui. Tant qu'on n'a pas rencontré les gens, moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Nougaro, comme Barbara, comme Reggiani, comme
Astor Piazzolla.
Piazzolla, voilà, c'est des rencontres plus instrumentales. Non, c'était des gens de chansons. Dans le cinéma, il n'y a pas eu ces rencontres-là encore. Mais disons que, comme Michel Legrand disait que à chaque décennie, il voulait changer de toujours rester dans la musique, bien sûr, parce que c'est la seule chose qu'il savait faire et divinement bien. Mais changer, pendant des années, il a été orchestrateur, puis après il a dit basta, stop, je veux faire la musique de film.
Et bah justement, Richard Galliano, je vous propose d'écouter justement ce que disait Michel Legrand en mars 2014. C'était sur France Culture pour l'émission À Voix Nue.
Le rêve, je voudrais tout faire sérieusement, par tranche, comme ça. Et j'ai passé ma vie à faire les choses par tranches. Dans les années 50, j'étais devenu un pianiste accompagnateur et puis surtout un arrangeur d'un arrangeur. Je travaillais déjà pour Sinatra, pour Barbara Streisand, pour plein de gens en Amérique, en France, partout. Je faisais pour Montand, pour Piaf. Alors j'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Et puis après, j'en ai eu assez. Je dis non. Je me suis rendu compte qu'à un moment, on se lasse de faire la même chose tout le temps. Et puis d'orchestrer pour des chanteurs, c'est bien. Mais il ne faut pas le faire trop longtemps. Je sais que si on fait les mêmes choses trop longtemps, on finit par être moins intéressé par ce qu'on fait. Et on va donc chuter en qualité. Je le sais, ça. Et quand on commence à chuter en qualité parce qu'on s'intéresse moins à ce qu'on fait, on est en danger. Et je m'étais rendu compte qu'il fallait quitter en pleine gloire et vraiment lever son chapeau et dire à tout le monde, je m'en vais, salut, je vais faire autre chose.
Michel Legrand, voilà. Richard Galliano.
Oui, je disais qu'il m'a répété ces phrases la dernière fois qu'on s'est vu, 2 mois avant qu'il disparaisse. Et c'est certain, et c'est vrai que j'ai toujours les phrases d'Astor Piazzolla aussi. Par exemple, le dernier disque que j'ai fait, le live au Japon, je me rappelle qu'Astor me disait, Richard, vous devez jouer tout ce qui vous passe par la tête. Et j'ai suivi ses conseils, jusqu'encore aujourd'hui, 25 ans après sa mort. Michel Legrand, c'est pareil, je veux dire, ses phrases, elles sont vraiment en moi. Et quelque part, si je suis le conseil, peut-être que je vais arrêter de jouer l'accordéon et je vais vraiment me consacrer à la composition. Chose qui me titille un peu parce que C'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas que j'en ai marre de voyager, de jouer, mais bon, mon accordéon fait 13 kilos, je donne tout le jus que j'ai en moi à chaque concert. Et toute cette énergie qu'on met à jouer sur le moment, même si c'est de la composition spontanée comme on a écouté au début, se poser, écrire, c'est autre chose. Et puis on déclenche d'autres énergies, d'autres forces.
Il composait au piano, Michel Legrand, et vous, Richard Galliano, c'est l'accordéon?
Les deux, piano, accordéon, quelquefois même à l'harmonica, des fois sans instrument aussi. Il n'y a pas de recette, vous voyez, c'est comme pour une chanson. Par exemple, une chanson, bon, j'ai fait surtout de chansons avec Alain Leprest ou Claude Nougaro, pas des moindres. Mais il y a deux manières. Vie-violence, j'ai fait la musique d'abord, Claude a fait les textes après. Allez débrouillard, il m'a donné un texte, j'ai fait la musique dessus. Et souvent, dans un beau poème, bien construit, même les classiques, Baudelaire, il m'est arrivé de faire chercher des mélodies. Les mélodies sont déjà à l'intérieur. Il y a déjà une multitude un rythme, l'émotion, bien sûr. Il y a des notes qui sonnent mal parce que par rapport aux mots. Moi, je suis, comme Michel Legrand, Piazzolla, c'était la même chose. On est avant tout des hommes de chansons. Faire une chanson, c'est pas comme Michel Legrand. Moi, je suis d'accord par rapport à Gainsbourg qui disait que c'était un art mineur, mais comme il n'était pas vraiment musicien, technicien, peut-être qu'il a confondu mineur et majeur. Moi, je pense que la chanson, c'est un art majeur.
Quand vous avez commencé, Richard Galliano, vous étiez un musicien artiste subversif. Je veux dire par là le fait de venir avec l'accordéon à un moment où c'était les yéyés, on voulait surtout pas voir l'accordéon, il fallait le cacher. C'était une manière pour vous de résister ou
avec le recul, les ringards de yéyés, parce qu'ils sont vraiment ringards, ils ont mal vieilli. Ils sont même ceux qui sont encore en vie, ils sont vraiment ringards. Et il faut savoir, j'ai eu quand même quelque chose à défendre toute ma vie, parce que mon père était accordéoniste, et dans les années 60, il a souffert de ça. Il jouait, il me dit, je suis obligé de jouer de l'orgue électronique, parce que dès que je sors l'accordéon de ma boîte, les jeunes sifflent, voilà, c'était leur moyen d'expression. Mais à la même époque, dans les années 60, il y avait Bill Haley aux États-Unis, l'inventeur, justement, du style qui a été déformé par les yéyés, parce qu'il vaut mieux écouter l'original. Et dans son orchestre, les Comètes, il y avait un accordoniste qui jouait le boogie-woogie, magnifique accordoniste. Vous pouvez le revoir sur les YouTube.
Ouais. Mais c'est donc en hommage à votre père ou vous étiez résistant? Vous vouliez montrer que l'accordéon, c'est l'âme de la chanson française et que vous n'alliez pas vous...
C'est un instrument, c'est un orchestre, comme le piano. Sur le tard, lorsque le Deutsche Grammophon m'a demandé de faire un disque classique, de suite, j'ai dit oui et j'ai proposé Bach. Parce que ça fait des décennies qu'on joue Bach à l'accordéon, mais c'est la face cachée de l'accordéon, vous voyez. Il faut savoir que l'accordéon, c'est un instrument tout récent. Il a été inventé dans les années 1820, par là, mais au début, c'était un petit jouet. L'instrument dont que je pratique, moi, a été mis au point entre 1940 et 1950. Donc, c'est un des instruments les plus jeunes. Et aujourd'hui, la nouvelle génération des accordéonistes de par le monde est très pertinente. Et elle va dans la musique, ils vont jouer dans la musique contemporaine, dans le jazz, dans la chanson, bien sûr. Si on enlève l'accordéon derrière Piaf ou Barbara, Reggiani,
et arriver aux années 80 avec les Rita Mitsuko et toute cette scène qui reprend justement, pour bien se démarquer des années 60-70, l'accordéon.
Oui, tout à fait. Ils ont repris l'accordéon, mais pas toujours de la bonne manière. C'est toujours avec un côté un peu flonflon, un côté... Bien sûr, j'aime les flonflons, j'aime le bal. Mais...
Vous n'êtes pas Yvette Horner, c'est ça que vous voulez dire, Richard Galliano?
J'étais très ami avec Yvette Horner, qui était une femme merveilleuse, qui a été victime de son image populaire du Tour de France, mais c'était une concertiste pianiste magnifique, une femme de caractère. Et d'une douceur aussi. Moi, j'en garde un souvenir. Vraiment, il fallait entendre Yvette Horner jouer les Préludes et Fugues du clavecin bien tempéré à l'accordéon. C'était vraiment une grande musicienne. Mais il y a des syndromes comme ça. Dans la variété, par exemple, il y a des chanteurs comme Dave. Tout le monde dit, ah oui, toujours en supputant un peu le truc, le fait qu'il serait un peu ringard. Et en fait, non, pas du tout. Je sais que c'est un très bon chanteur à voix et une personne vraiment très délicate. Mais quelquefois, il faut faire attention où on met les pieds parce que on peut avoir après une réputation qui vous suit à vie. Regardez Yvette Horner, c'est terrible. Hein, j'ai perdu le fil de ce que vous m'aviez dit au départ.
Oh, mais... pas du tout. Pour terminer, Richard Galliano, vous, aujourd'hui, vous préférez vous produire seul ou être avec les chanteurs? Ça vous amuse tout autant qu'à vos débuts?
Bon, j'essaye d'être, éviter d'être mal accompagné. Non, les chanteurs, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'écrire des chansons. Accompagner les chanteurs, bon, j'ai eu la chance d'accompagner les plus grands. Aujourd'hui, je dis pas qu'il n'y ait pas de gens de talent. Mais il faut plus, un peu plus les chercher quand même. Bon. Un peu plus les chercher, faire des chansons, oui, j'ai très envie. Non, je crois que ce que je vais faire, parce que tout ce que j'ai décidé, finalement, c'est réalisé dans ma vie. Je pense écrire des belles musiques de films et dans la lignée de ce qu'ont écrit les Nino Rota, les Michel Legrand, c'est-à-dire avec, vous sortez du film, vous avez une mélodie dans la tête, et non pas un accompagnement de bruit, de son, non, une mélodie, la Strada, un homme, une femme, Francis Lay aussi, magnifique, qui était un ami aussi. Voilà, mes envies.
Richard Galliano, vous serez demain à l'église Saint-Germain-des-Prés pour un récital d'accordéon dans le cadre du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Et puis votre nouvel album de Tokyo Concert. Là, c'est sous les toits de Paris, mais par votre ami Michel Legrand.
Michel Legrand, oui, oui, oui.
Au piano.
Très belle composition, ça. Merci.
Merci d'être passé.
C'était un très grand pianiste.
En plus, ouais.
Ouais, ouais.
Dire même que c'était un grand pianiste, votre
un
ami
grand
Michel
pianiste,
Legrand.
Il continuait toujours à faire, il me disait, un minimum de 2 heures de piano par jour. Et aussi bien dans le jazz que dans la musique classique. On a ça en commun. On n'a pas de frontières dans nos musiques.
Merci d'être passé ce matin, Richard Galliano.
Merci.
Vous pouvez maintenant réécouter cette émission ou faire partager le podcast Le Réveil Culturel qui a été préparé avec Corinne Amar, assistée de Maëlle Rey, à la technique ce matin Philippe Mercher, une réalisation de Lionel Contin. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée sur France Culture.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Entre nouvelles révélations et artistes confirmés, le festival vous invite au voyage. 23 compagnies sillonnent le territoire sécano-dionysien avec la complicité de 13 théâtres. Découvrez les créations de Louise Van Est, Virgilio Cieni, Radouane El Medeb, Daniel Larieux, François Chéniaud, Alice Ripoll et tant d'autres. Les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis du 17 mai au 22 juin. Un partenariat France Culture. Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Et sur franceculture.fr, le podcast original de l'expérience. Aurélie Charron.
France Jolie a été enregistrée des expériences d'état de conscience modifiées. Nicolas fait des sorties de corps, à tout moment et depuis l'enfance. Il est là, mais son esprit est ailleurs. Huguette, elle, est synesthète. Tous ont accès à ce qui nous est invisible. C'est un podcast original en 8 épisodes où l'on accepte de voir le monde à travers les yeux, les sens et les émotions de ceux dont la conscience est différente de la nôtre. Hors de soi, à retrouver sur franceculture.fr.
À télécharger dès aujourd'hui sur franceculture.fr et les plateformes de podcast.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La Syrie d'Ascoval sera bien reprise par British Steel et avec elle les 268 emplois à Saint-Saulve dans le Nord. Le ministre de l'économie en France l'assurait hier, mais les salariés restent sur leur garde, vous l'entendrez. Nous avons aussi interrogé le premier secrétaire du Parti Socialiste lors d'un meeting de sa tête de liste, Raphaël Glucksmann, aux Européennes hier. De grands noms du parti participent à la campagne en ce moment. Ce n'est pas un appel à l'aide, dit Olivier Faure. Lutter contre les contenus terroristes sur Internet, 26 pays et géants du net s'y sont engagés hier. Après les mots, les actes viendront-ils? Ce sera difficile, vous le comprendrez. Et puis nous ferons un point dans ce journal sur la situation en Syrie. Dans le plus grand silence, des dizaines de personnes sont tuées dans les bombardements du régime ces dernières semaines. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'assure, la reprise d'Ascoval par British Steel se fera. L'État français et le groupe britannique ont débloqué des fonds promis dans le dossier de la Syrie nordiste en difficulté, 20 millions d'euros au total. C'est un soulagement pour les 268 salariés du site de Saint-Saulve après avoir vu dans les médias britanniques la question d'une possible faillite de British Steel. La peur que cette reprise ne fonctionne pas laissera tout de même des traces, selon Nassim Bardi. Il est délégué CGT à la Syrie d'Ascoval.
Il y aura quand même un sentiment de doute à moyen et long terme, parce que le mal est fait. Ça fait mal au groupe, parce que entendre le terme faillite, c'est négatif, surtout de la part des fournisseurs et des clients. Donc maintenant, aujourd'hui, on nous dit que les fonds arrivent, c'est bien, mais les salariés, vous savez, ils ne sont pas rassurés. C'est surréaliste, ils ne pensent pas aux clients, donc nous, les clients, ils entendent ça, ils vont avoir du mal à revenir chez nous. Même les salariés, on n'est pas des robots. Le timing a été mauvais de la part de British. Après, peut-être que c'est un moyen de pression auprès du gouvernement britannique, peut-être. Mais nous, on l'a très très mal perçu. Et puis, de toute manière, là, pour remobiliser, déjà, c'était compliqué avec la motivation des salariés. Là, c'est encore plus compliqué. Il y a un représentant de British qui vient lundi. De toute manière, il va falloir qu'il soit transparent avec nous. Parce qu'on n'a pas confiance, malheureusement, la confiance n'est pas là. On l'a rencontré plusieurs fois, l'investisseur. À aucun moment, il nous a parlé des problèmes avec les Britanniques. À aucun moment, il nous a parlé du Brexit. On lui avait posé la question du Brexit, il nous a dit que ce n'était pas un problème pour lui. Or, c'est un gros problème. Vous savez, quand il n'y a pas de transparence déjà dès le début, installer une relation de confiance, c'est très dur, très compliqué.
Des propos recueillis par Bastien Roch. Pas de reprise, en revanche, des sites des deux sucreries de Südzucker dans le Calvados et dans la Somme. Les actionnaires majoritaires allemands du groupe refusent que les usines de leur filiale Saint-Louis soient reprises. Les betteraviers français voulaient pourtant les reprendre en coopérative. Près de 130 postes vont donc être supprimés. L'ancienne ministre de la Justice, Chrétienne Taubira, était à Rouen. Hier, elle y a apporté son soutien au candidat aux européennes, Raphaël Glucksmann, candidat de la gauche. Un coup de pouce qui tombe à point nommé pour la tête de liste du Parti Socialiste et de place publique. Il est au cœur d'une polémique en raison de ses propos sur François Mitterrand et sur le génocide rwandais. Coup de pouce de plus également ce soir, puisque l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve s'affichera également aux côtés de Raphaël Glucksmann lors d'un meeting. Pas question pour autant de parler d'un appel à l'aide pour le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, visiblement irrité par le sujet.
Mais je n'appelle personne à l'aide. C'est quoi cette histoire? On se bat pour ce qu'on croit. Est-ce qu'on fera 3, 4, 5, 10, 15, 20? C'est pas moi qui le décide. Et c'est pas François Hollande et c'est pas Christiane Taubira. Ce sont les électeurs. Les électeurs, ils ont envie de savoir ce qu'on propose. Et la seule question que vous me posez à chaque fois que vous me rencontrez, c'est de savoir s'il y a tel ou tel éléphant qui est bien présent ou pas. Donc moi, je vous dis, effectivement, ces gens-là, toutes ces personnalités qui sont des repères dans la vie publique, c'est bien qu'ils soient là et c'est bien qu'ils s'expriment et qu'ils disent pourquoi ils ont envie avec nous d'Europe sociale et écologique. Mais ne rendez pas ce débat aussi... Enfin, on a 10 jours pour essayer d'expliquer ce qu'on veut faire. Ne résumez pas le débat à un débat médiocre qui est le débat politicien duquel on crève. Moi, je ne veux pas crever avec ce débat-là.
Olivier Faure au micro de Steven Gouaillet à Rouen hier soir pour France Culture. Et à 10 jours des élections européennes, un débat a eu lieu également. Hier soir, débat entre les 6 candidats à la présidence de la Commission européenne. Derrière son pupitre, chacun a défendu sa vision de l'Europe sur différents thèmes comme le chômage, l'immigration et surtout la fiscalité et le climat. Cette question à présent, le glyphosate est-il cancérogène? Le rapport parlementaire publié aujourd'hui ne tranche pas, contrairement à ce qu'avait pu affirmer l'un de ses auteurs, le sénateur Pierre Médeville, en début de semaine. Le texte en question explique notamment pourquoi les avis divergent entre l'OMS et les agences sanitaires européennes. Il se penche sur les difficultés de l'expertise scientifique en matière de risque, Anne-Laure Barral.
Non, le rapport ne dit pas que le glyphosate serait moins mauvais pour la santé que la viande rouge. Il rappelle le débat qu'il y a eu en 2016 au moment de l'autorisation de la substance et pourquoi les agences sanitaires comme l'ANSES en France ou l'EFSA en Europe ne classaient pas le glyphosate comme cancérigène probable, alors que l'OMS, à travers son Centre international de recherche sur le cancer, si certaines ont étudié le fonctionnement de la molécule et l'autre, l'exposition de la population. Mais ce rapport est beaucoup plus large sur le mode de fonctionnement des agences, très encadré, et aussi sur leurs difficultés à recruter des experts, à éviter que leur avis ne soit influencé par des études faussement indépendantes ou qu'il soit très critiqué dès qu'il est communiqué. Ce rapport rappelle surtout que les scientifiques doivent donner un avis et que les politiques doivent prendre des décisions pour gérer les risques. Il donne également une définition du principe de précaution comme un principe d'équilibre qui ne vise pas à bloquer le progrès scientifique, mais qui recommande la prudence en cas d'incertitude.
26 pays et géants d'Internet ont rallié hier l'appel de Christchurch lancé depuis l'Élysée. Appel à lutter contre les contenus en ligne terroristes et extrémistes violents. 2 mois, rappelons-le, après la diffusion en direct sur Facebook de l'attaque contre des mosquées en Nouvelle-Zélande. La France, la Nouvelle-Zélande donc, mais aussi le Canada, le Royaume-Uni ou encore le Sénégal se sont engagés aux côtés de Facebook, Google ou de Wikipédia. Il s'agit d'une première avancée pour tous les signataires et peut-être la plus facile d'ailleurs, car le travail à venir s'annonce beaucoup plus complexe, Nathanaël Charbonnier.
Sur le papier, dès que l'on parle de terrorisme, a priori tout le monde est d'accord, c'est mal et il faut le combattre. Effacer la vidéo du meurtrier australien qui a tué 51 personnes il y a 2 mois en Nouvelle-Zélande, cela semble une évidence pour tout le monde. Mais les choses se compliquent lorsque l'on parle de haine, de discours haineux, de racisme, d'antisémitisme avec des écueils. Le premier, c'est que, étrangement, ces notions peuvent différer d'un pays à l'autre. Le second, c'est que ce genre de propos est plus difficile à identifier sur le net. Conséquence, il existe une sorte de zone grise qu'il va falloir apprendre à identifier avec les plateformes Internet, comme l'a expliqué hier le président français Emmanuel Macron.
Sur les contenus terroristes, l'engagement pris par les entreprises aujourd'hui qui étaient là autour de la table, c'est un retrait immédiat et permanent. Et puis, il y a tout un autre continent qui sont les contenus haineux, qui est cette zone grise beaucoup plus complexe, qui peuvent mener à l'acte de terrorisme, même s'ils ne sont pas définis comme terroristes. C'est sur ce sujet qu'on doit avancer sur de la régulation intelligente. Parce que sur ce sujet, les plateformes nous disent à juste titre, ça vous pouvez pas nous l'interdire, c'est pas terroriste.
Et pour vérifier que ce travail avance, 2 rendez-vous sont déjà annoncés avec des bilans d'étape en juin et septembre. Un travail qui se fera sans les Américains qui soutiennent le texte, mais refuse en revanche de le signer.
Au Soudan, les discussions sur la transition politique sont suspendues pour 72 heures sur décision du chef du conseil militaire au pouvoir. Il demande d'ici là le démantèlement des barrages routiers mis en place par les manifestants à Khartoum, la capitale soudanaise. Des bombardements qui s'intensifient en Syrie. L'armée syrienne et son allié russe visent toujours la région d'Idlib dans le nord-ouest du pays. Tandis que les Nations Unies redoutent une déstabilisation de la région, les ONG présentes sur place alarme, elle, de la situation humanitaire, Valérie Krova.
La province d'Idlib est en partie contrôlée par les djihadistes de Tahrir al-Sham. Tous les combattants rebelles et leurs familles y ont été emmenés au fur et à mesure que le régime reprenait des territoires. La concentration de la population est telle que la situation humanitaire était déjà extrêmement précaire. Les derniers bombardements ont eu un effet désastreux, comme l'explique le docteur Ziad Alissa. Il préside l'Union des organisations de secours et de soins médicaux présentes dans la région d'Idlib.
On est devant une nouvelle vague de déplacés. Les collègues là-bas, ils estiment à peu près à 270 000 personnes bombardées comme ça. Les villages, ça pousse les gens à fuir pour vider tous ces villages qui est dans ces zones-là.
L'an dernier, Moscou et Ankara avaient conclu à Sotchi un accord pour faire d'Idlib une zone tampon, ce qui avait permis à l'époque d'éviter une offensive du régime. Cet accord a volé en éclats, ce que déplore le docteur Ziad Alissa.
On demande, c'est vraiment un vrai cessez-le-feu, et arrêter de tuer des civils et arrêter de cibler quand même les centres médicaux ou les écoles ou tous les quartiers civils dans ces zones-là.
En représailles au récent bombardement de l'armée syrienne, les rebelles ont lancé une contre-attaque dans le nord-ouest de la Syrie.
Des tensions verbales cette fois et toujours entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran évoque une escalade de tensions inacceptable alors que Washington a encore durci ses sanctions économiques à l'encontre de l'Iran, renforcé également sa présence militaire dans le Golfe. Hier, les États-Unis ont même rappelé de l'Irak voisin leur personnel diplomatique non essentiel. Le temps de ce jeudi sera encore calme en France, mais sous un soleil moins généreux que ces derniers jours puisque les nuages arrivent avant la pluie prévue en fin de semaine. Il fait ce matin 14 degrés à Lille et Lyon, 15 à Paris, Nantes, Périgueux, 17 à Marseille, 19 à Bayonne. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées et vous vous penchez, Jacques, ce matin sur la nouvelle édition du Petit Robert qui paraît aujourd'hui. Alors parmi les mots qui font leur entrée dans le dictionnaire, il y a un fox, jobé. Et pour ceux qui se réveillent, ce matin, une latte, c'est un café nappé de mousse de lait chaud.
Bon appétit. Alors, Jobé nous vient de Belgique, il conviendra aux milléniaux, autre mot nouveau, désormais francisé, à l'heure où les embauches en CDI se raréfient et les petits jobs se multiplient. Dans sa présentation, Alain Rey évoque le mot infox, dont vous venez de parler, Clara, qui permet d'éviter l'américanisme fake news. Dans infox, on entend Fox comme pour nous méfier du renard qui nous ment. Le lexique de la communication numérique est bien représenté parmi les entrants. Scroller, de l'anglais scroll, rouleau, manuscrit, signifie donc faire défiler un contenu sur un écran informatique. N'en déplaise à ceux qui lui préféreront le mot données. Data est désormais intronisé dans le Petit Robert comme un vocable français en version invariable ou au pluriel. Blockchain, cyber harcèlement ou vidéo verbalisation aussi, lequel évoque un univers orwellien, nouvel entrant, pour désigner la verbalisation effectuée à l'aide de caméras de surveillance. La politique n'est pas en reste. Démocrature ou encore transpartisan, c'est d'actualité pour dépasser les clivages. Je retiens oklocratie du grec oklos qui signifie la foule, une dégénérescence de la démocratie représentative. Selon Rousseau, le gouvernement par le peuple, les gilets jaunes et leur RIC, leur référendum d'initiative populaire apprécieront. Sinon, quelques aimables curiosités lexicales venues du monde francophone. Niaisage, perdre son temps en futilité. Et du même Québec, jarniguane, bon sens ou encore cadoté, où l'on entend cadeau, qui rappelle à notre bon souvenir la prochaine fête des mères et nous vient d'Afrique. Pas de mots qui sortent de cette nouvelle édition du Petit Robert, juste certains signalés comme vieillis, et pas davantage de mots manquants qui avaient déjà fait l'objet d'une recension originale dans un dictionnaire imaginé par Belinda Cannon et Christian Doumet, ouvert à tous les vents de l'inspiration littéraire, comme celle de Cécile Ladjali, déplorant l'absence de celui qui définirait le bruit si particulier que produit un pas dans la neige, crissé, mais non, il lui fallait un mot idoine, unique et adéquat, comme l'un de ceux dont disposent les Inuits pour dire tous les états de la neige et de la glace. Aujourd'hui, les mêmes auteurs publient un dictionnaire des mots parfaits aux mêmes éditions Thierry Marchès et suivant le même principe, faire parler les écrivains d'une ressource essentielle pour eux, les mots. Il s'agit évidemment d'un exercice différent, mais pas si éloigné, même parfait. Les mots manquent toujours à l'écrivain, car il faut à chaque fois les attirer à soi depuis leur usage commun, comme le soulignait Michel Léris dans « Langage t'engage » ou « Ce que les mots me disent », renouer avec les significations et les associations tout à fait personnelles attachées à certains mots, réveiller des échos affectifs. Les auteurs convoqués dans ce nouveau dictionnaire informel s'emploient à explorer l'univers intime désigné par le joli terme allemand de « Lieblingswörter ». On nous fait du langage des premiers hommes, des langues de géomètres, et nous voyons que ce furent des langues de poètes, affirmait Rousseau dans son essai sur l'origine des langues. Dans l'épaisseur sémantique des connotations et des échos secrets du lexique adopté pour se faire entendre, ce nouveau dictionnaire amoureux illustre la façon dont les créateurs inventent leur propre langue. Pour faire court, dans les limites qui me sont imparties, j'ai choisi deux mots de trois lettres, « balle » et « été ». Pour définir le bal, écrit Dominique Barberis, le Robert n'hésite pas à recourir à une vague tautologie, lieu où l'on donne des bals. Le mot vaut son pesant d'anciens échecs pour l'écrivaine, celui d'une thèse sur les scènes de bal dans le roman. On dit le sujet frivole, mais c'est au bal qu'a lieu une des rencontres les plus inoubliables de la littérature française, celle de la princesse de Clèves. Le bal est une figuration romanesque de l'amour, le seul vrai moment de bonheur qu'elle ait connu. Il y a aussi quelque chose de démodé, de nostalgique dans le bal. Voir, comme dit Verlaine à propos de ses fêtes galantes, quelque chose de quasi triste qui illustre cette phrase de Madame Bovary. L'air du bal était lourd, les lampes pâlissaient. Rien de tel dans le mot « été » dont parle Christian Doumet, qui figure une forme de plénitude à lui tout seul. L'axe vertical du « T » qu'entoure une même lettre redoublée. Par la vertu simple de ce mot, une saison est comme suspendue dans le paroxysme reflété de son midi, comme dans ce haïku cité par Roland Barthes, « Couché, je vois passer des nuages, chambre d'été ». Et pour ne pas faire de jaloux, je vais divulgâcher, c'est-à-dire spoiler ou déflorer, quelques mots du Petit Larousse qui sort le 21 mai. Dans leur chronique de l'humanité, Francis Combe et Patricia Latour signalent que 150 mots ont fait leur entrée dans cette nouvelle édition, dont plusieurs traduisent, est-ce un hasard, des évolutions dans le monde du travail comme ubérisation ou smicardisation. Vous écoutez France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, l'accord de transition au Soudan.
Oui, sortie de crise annoncée, de nouveau la crise. Les négociations entre civils et militaires sont suspendues pour 3 jours. Il y a eu des violences à Khartoum hier soir. Un accord sur une transition démocratique était effectivement annoncé hier matin, mais en moins de 24 heures, la situation s'est envenimée. 5 mois maintenant après le début des manifestations, la société civile qui a obtenu le départ d'Omar el-Béchir aura-t-elle raison de l'armée, pilier du régime? On voit ça avec vous, Clément Dehaye, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes doctorant à l'Université Paris 8, chercheur en sociologie politique, spécialiste du Soudan et membre de Noria. Situation hésitante, je le disais, 9 personnes blessées par balle hier soir. L'armée et les représentants des manifestants s'accusent mutuellement d'attiser les violences. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé pour que le climat politique change si vite, en si peu de temps, entre hier matin et hier soir?
Alors, le climat politique avait commencé à changer dès lundi, puisqu'il y avait déjà eu des affrontements près du sitting. Apparemment, des forces liées au régime, donc des forces qu'on appelle les Rapid Support Forces, qui sont une milice composée d'anciens miliciens du Darfour, donc responsables en grande partie des massacres au Darfour, qui sont un des piliers du régime actuel, du régime de transition militaire, ont essayé de faire bouger les manifestants du sitting et ont tiré. Il y a eu apparemment plus de 200 blessés et au moins 6 morts lundi. Et hier, à nouveau, des affrontements se sont passés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On ne sait pas pour l'instant, puisque le régime accuse des membres de fidèles d'Omar el-Béchir d'avoir tiré sur la foule, mais aussi les manifestants de provoquer les militaires. Donc pour l'instant, on est dans une situation où on ne sait pas exactement ce qui se passe, où le gouvernement de transition militaire, aujourd'hui, accuse également les manifestants de ne pas jouer le jeu de la négociation. Donc on était très proche d'un accord hier encore dans la journée, malgré les affrontements de lundi, accord qui vient de s'évanouir apparemment.
Et on va dire un mot de cet accord. Encore une fois, alors quelle interprétation vous feriez de ces événements et de ces tirs? Vous le disiez, les Rapid Support Forces qui semblent, selon plusieurs témoignages, tirer effectivement sur les manifestants, elles-mêmes qui ont été dirigées par le numéro 2 du Conseil militaire, Emeti. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'il y a une crispation des forces de sécurité face au sitting, face aux artères bouchées, ou qu'il y a un double jeu de certains du Conseil militaire?
Alors, lundi, le chef des soldats qui ont tiré, des miliciens qui ont tiré sur la foule, disait que ce n'était pas ces soldats, etc. Après la journée d'hier où les RSF ont à nouveau tiré sur la foule, il n'y a plus vraiment de doute que les ordres viennent du conseil militaire, au moins des métiers, probablement de d'autres personnes. Par contre, on ne peut pas dire avec encore énormément de clarté qui, à l'intérieur du régime de transition militaire, donne les ordres pour essayer de tirer sur la foule et pour faire capoter ces accords. En tout cas, il est sûr qu'il y a une stratégie de la part de certains acteurs militaires et armés au Soudan pour empêcher que ces accords de paix aboutissent, car ces accords limiteraient énormément le pouvoir des acteurs militaires et de la sécurité soudanaise.
Et alors précisément, ces accords, qu'est-ce qu'ils contiennent et qu'est-ce qu'ils apporteraient ? D'abord un conseil souverain, un cabinet, une assemblée législative. C'était un peu, disons, la clé de voûte qui manquait à cette révolution, ou plutôt la première pièce de la transition démocratique réellement ?
Alors oui, c'était cet accord de transition était quelque chose sur lequel se battaient depuis un moment les forces d'opposition, donc depuis plus d'un mois, avec le TMC, donc le Transitional Military Council. Cet accord prévoyait donc un corps législatif qui aurait été souverain et qui aurait nommé un cabinet ministériel qui se serait occupé de la majorité des décisions. Le conseil souverain dont vous avez parlé, qui aurait été lui dominé par les militaires, et, ne se serait occupé que de la politique extérieure et des affaires de guerre. C'est-à-dire que dans cet accord, l'essentiel du pouvoir, à part le ministère de la Défense, serait revenu à des civils et aux forces d'opposition qui négocient aujourd'hui avec le pouvoir. L'armée aurait été ainsi circonscrite à un minimum de pouvoir.
Oui, donc il y avait la garantie d'un pouvoir civil. De la même manière, dans l'Assemblée législative, il y a un chiffre de 67% des futurs 300 membres désignés parmi les membres de l'Association pour la liberté et le changement. Qu'est-ce que ça signifie que les 33% sont pour l'armée ?
Alors,
les 33 restants, oui.
Ces 33% restants, ce n'était pas encore clair jusqu'à hier. Ils devaient éclaircir justement à qui devaient revenir ces 33% hier. Mais ce qui se disait, c'est que cela aurait été séparé entre un certain nombre de groupes islamistes supportant l'ancien pouvoir et les groupes armés du Darfour et du Sud-Soudan, qui eux ne sont pas part de la déclaration pour le changement et la liberté. Et donc ces 33% auraient été séparés entre des partisans de l'ancien régime, ou qui avaient quitté l'ancien régime avant sa chute, et des membres des groupes armés.
Et donc face à ces avancées, disons politiques, il y aurait donc une crispation de l'armée, de là à dire qu'il y aurait deux voire trois factions dans l'armée désormais ?
Alors, le problème de l'armée et des services de sécurité au Soudan, c'est qu'elles sont pléthoriques et évidemment assez divisées. Donc les services de sécurité même, donc la NIS, qui sont les services de sécurité intérieure, ont été mis sous tutelle et ne sont plus très actifs aujourd'hui. Par contre, la NIS, les RSF, qui sont donc la ministre dont on parlait plus tôt, eux sont les principaux responsables de la sécurité à Khartoum aujourd'hui. Donc c'est une ministre qui vient des provinces et qui a été impliquée dans la guerre au Darfour. Eux sont les principaux soutiens du régime actuel, donc de la junte militaire actuelle. Sachant que les militaires, eux, ont aussi plusieurs branches d'armée. Certaines de ces branches auraient été, d'après des militaires sur place, auraient été désarmées. Et les militaires plutôt fidèles à la révolution, qui ont protégé les manifestants en début du sitting, donc le 6 avril, ont eux été dispersés en province. Et donc, il semble qu'il y ait une forme de reprise même en main au sein de l'armée actuellement, et que cette reprise en main soit menée au travers des RSF, donc des miliciens fidèles au numéro 2 du régime.
Et donc ne resterait à Khartoum effectivement que les plus durs éléments de l'armée. Et réciproquement, alors, quelle société civile a en face d'elle cette armée pour une révolution qui a commencé hors de Khartoum au début, plutôt parmi les classes, on va dire, populaires, et puis finalement qui est devenue une révolution de classe moyenne et éduquée, et dans la capitale?
Alors, cette révolution, qui en effet, comme vous l'avez dit, est devenue une révolution de classe moyenne dans la capitale, est restée quand même une révolution populaire dans les autres villes qui sont toujours actives. Il y a toujours des sittings et des manifestations dans les autres villes. Il y a encore à Kassala, à Port-Soudan, à Atbara, à Ouad Medine et à Niala, au Darfour. Par contre, elles sont représentées par un certain nombre de forces politiques. Ces forces politiques sont rassemblées au sein de la Déclaration pour la liberté et le changement. Cette Déclaration pour la liberté et le changement a été lancée par l'Association des professionnels soudanais. L'Association des professionnels soudanais et l'organisation est une sorte de syndicat qui a appelé à manifester pendant 4 mois et a été rejoint au sein de la force de la Déclaration des libertés et du changement par l'ensemble de l'opposition au régime politique. Aujourd'hui, c'est cette plateforme, donc cette Déclaration de liberté et du changement, qui menait les négociations jusqu'à hier.
Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'elle tient la rue, entre guillemets, puisque vous l'avez rappelé en début d'entretien, les militaires accusent une partie des manifestants, disons, d'entretenir les violences via les barrages. Et on voit qu'ils ont très envie de dégager un certain nombre d'axes de circulation.
Alors, la rue est plutôt tenue par ce qu'on appelle les comités révolutionnaires. Donc, ce sont des comités qui ont vu le jour au fur et à mesure de la révolution. Qui sont des comités locaux qui ont vu le jour dans chaque quartier, donc qui sont nés dans chaque quartier, notamment sous l'impulsion des étudiants mobilisés. Et aujourd'hui, le sitting est largement organisé et dominé par ces comités révolutionnaires. Ces comités révolutionnaires travaillent évidemment avec les forces d'opposition, mais les forces d'opposition politiques classiques, elles sont relativement affaiblies après 30 ans de dictature et de persécution, et donc ont une présence dans la rue relativement faible, à part quelques partis qui gardent encore une présence dans la rue, comme le Parti communiste soudanais ou le Soudan Congress Party.
Eh bien écoutez, merci pour ce tableau très complet ce matin, Clément Déhaye. On suivra dans 3 jours la reprise des négociations. Merci, je rappelle que vous étiez doctorant à l'Université Paris 8 et membre de l'Institut de Recherche Noria.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Saison 2019-2020 de l'Auditorium de Radio France.
Emmanuel Krivine,
Nico Franck,
Ricardo Muti,
Martha Argerich,
Renaud Capuçon,
Marie-Nicole Lemieux,
Leonardo Garcia Alarcón,
Myung Woon Chung,
Martina Batic,
Mathias Görne,
Carole Mossakowski,
Quatuor Diotima,
Barbara Hannigan,
Sophie Janin,
Sergei Babayan,
Alain Planès,
Andy Hemler,
François-Frédéric Guy,
Bertrand Chamaillou,
Patricia Tchoffi.
La nouvelle saison des concerts de Radio France est ouverte. Brochure, abonnement et réservation, maisondelaradio.fr.
Entrez au cœur du concert.
Chez les 18-25 ans, 3 électeurs sur 4 ne votent pas aux élections européennes.
Je refuse de croire que l'Europe n'intéresse pas les jeunes. C'est juste qu'il faut changer la manière dont on en parle.
La journaliste Cécile de Kervas-Doué nous propose de porter la voix des jeunes électeurs.
La rédaction de France Culture part à la rencontre de ces jeunes européens. Leurs idées reçues sur l'Europe, leurs thèmes favoris, leurs habitudes numériques. Les journalistes se glissent dans la peau d'un jeune de 20 ans sur Instagram et vous font découvrir l'Europe à travers leurs yeux, leurs mots et leurs voix. 4 semaines thématiques, emploi, frontières, égalité, environnement.
Une série multimédia interactive sur France Culture, notre compte Instagram et franceculture.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, on continue la série des matins avec Guillaume Herner.
Oui.
Bonjour.
Salut
Guillaume.
Xavier Martinet.
4e sur 5.
Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Et vous voulez évoquer le cas Cotarac.
Eh bien oui, Andrea Cotarac, l'insoumis qui a succombé aux sirènes du Rassemblement National, ça c'est le titre de Libération, ce membre de la France Insoumise qui est donc passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, enfin, sauf que les uns refusent qu'on les dise de gauche, les autres ne veulent pas qu'on les place à l'extrême droite. Bref, Andrea Cotarac est une excellente affaire journalistique. Bonne affaire journalistique, puisque son passage au Rassemblement National recèle 3 informations, Xavier. Andrea Cotarac est passé au Rassemblement National, ça fait une information. Andrea Cotarac était à la France Insoumise, 2 informations. Andrea Cotarac existe, ça fera la 3e. Les journalistes ont besoin de personnages, de nouveaux personnages, en voici un. Hein. Alors qui pourrait, hein, ça c'est en fonction de ce que vous déciderez, vous amis auditeurs, accréditer l'existence même de la catégorie de rouge-brun. Après avoir effectué de nombreux passages sur la chaîne de télévision Russia Today, après avoir témoigné de nombreuses fois pour l'amitié pro-russe, il quitte donc la France Insoumise pour rejoindre le parti le plus efficace dans sa lutte, selon lui, hein, je cite, contre la balkanisation de la société française. Rien à voir, hein, balkanisation, avec notre camarade Patrick Balkany, actuellement jugé pour différentes malversations. Andrea Cotarac est un bon sujet puisqu'il permet aux uns d'avoir le rouge-brun, aux autres de dénoncer une boule puante. En somme, il est la polémique de la semaine, une preuve qui ne prouvera rien et qui ne convaincra que les convaincus. Plus singulier encore, Andrea Cotarac a une formule assez alambiquée pour expliquer son départ de la France Insoumise. Il explique qu'il quitte ce parti non parce qu'il adhère
aux idées du Rassemblement National, ça serait trop simple, mais pour faire barrage aux idées de La République En Marche. D'où un problème aussi vieux que Maïmonide. Que vaut ce type de conversion? Je veux dire, que vaut une conversion où ce qui compte, ce n'est pas le but, mais la manœuvre, où l'on ne se convertit pas parce que l'on est touché par la grâce, mais pour des raisons de circonstances. Alors pour Maïmonide, autant le dire, hein, une telle conversion ne vaut rien ou pas grand-chose. D'où finalement, la seule vraie question, Cotarac est-il un traître, un relapse ou bien une marane?
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Et aujourd'hui, on va évoquer le poison Facebook. Enfin, c'est le titre de l'Express. Qui peut contrôler Facebook avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, 22 milliards de bénéfices? Facebook est un réseau social monstrueux, un réseau social qui influe sur la politique, nos manières de vivre, sur nos sociétés. On en parle aux environs de 7h40. Nous serons en compagnie d'un professeur de sociologie, Dominique Cardon, et de la journaliste Clara Doina-Schmelk. Il est 7h sur France Culture.